L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et ce sont donc les grandes lignes de l'actualité de la semaine, vues par Radio-Canada, par RFI, France Bleu, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Nous sommes d'abord au Canada aujourd'hui, où le gouvernement songe à financer à nouveau l'UNRWA, c'est l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Nadi Moubarak.
Oui, et au même moment, une coalition poursuit Ottawa pour faire cesser ses exportations militaires vers Israël.
Le Soudan menacé par une famine sans précédent, ce pays d'Afrique de l'Est est déchiré depuis un an par une guerre civile. Et Nicolas Sûr, il autorise finalement l'aide humanitaire venue du Tchad voisin.
Elle était bloquée depuis 15 jours, les autorités soudanaises accusant le Tchad de laisser passer des armes pour les paramilitaires qui combattent l'armée nationale.
En France, quelques jours avant la journée des droits des femmes ce 8 mars, les députés et sénateurs ont voté l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'était lundi et c'est une première.
Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Un vote historique salué par le Congrès réuni à Versailles. En Belgique, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, celle du comédien et réalisateur Bouly Lanners. Il s'est dit victime de harcèlement à un moment de sa carrière, Jacques Kremers.
Oui, un témoignage fort qui montre que les hommes aussi sont victimes de violences dans le cinéma. Un message formulé à quelques jours de la cérémonie des Magritte qui, ce samedi soir, rassemble et récompense les professionnels du cinéma belge.
Enfin, en Suisse, une votation qui fera date, c'était dimanche dernier, Esther Coco.
Le peuple et les cantons ont accepté à une large majorité le versement d'une 13e rente AVS, l'assurance vieillesse survivant. C'est la première fois que cette rente est augmentée et qu'une initiative syndicale passe le cap des urnes.
Et voilà pour les titres de la semaine. Le gouvernement Trudeau au Canada donc s'apprête à reprendre son financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Nadi.
Oui, selon CBC, Ottawa devrait verser comme prévu 25 millions de dollars ou 17 millions d'euros le mois prochain à l'UNRWA et débloquer même de nouveaux fonds. Mais cette idée crée de la dissension au sein même des libéraux de Justin Trudeau. Le Canada avait suspendu son aide financière en janvier dernier quand 12 employés de l'agence avaient été accusés par Israël d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre. Voici le Premier ministre Justin Trudeau.
Oui, il y a des allégations sérieuses sur lesquelles les Nations unies est en train de faire des suivis, mais la priorité doit être la protection de civils.
L'ambassadeur israélien au Canada, lui, affirme que l'UNRWA demeure une organisation infiltrée par le Hamas et qu'Israël en a fourni les preuves.
Et puisqu'il est question du Canada et d'Israël, le ton monte, Nadi, pour qu'Ottawa cesse d'exporter des armes vers l'État hébreu.
Voilà, une coalition d'avocats canadiens et de citoyens d'origine palestinienne poursuit en cour fédérale la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et le procureur général du Canada. James Yap est de l'Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne.
Ce que nous demandons à la cour, c'est d'ordonner au gouvernement du Canada de cesser de délivrer toute licence d'exploitation pour toutes les marchandises et technologies militaires destinées à Israël.
Selon James Yap, même si le Canada affirme ne pas avoir envoyé d'armes létales à Israël depuis le 7 octobre, il a autorisé l'exportation d'au moins 28,5 millions de dollars ou 19 millions d'euros en équipement militaire. Et d'après le juriste, la loi canadienne dit que s'il y a un risque que cet équipement serve à commettre une violation grave du droit humanitaire international, les exportations doivent cesser.
Alors, quelles sont les réactions à cette démarche?
Eh bien, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. De son côté, Richard Marceau, du Centre consultatif des affaires juives et israéliennes, déplore cette poursuite.
C'est une haute tentative de détourner le système judiciaire canadien à des fins politiques.
Richard Marceau ajoute que le commerce militaire entre le Canada et Israël est mineur.
Et pendant ce temps, un drame humanitaire se joue à Gaza, un autre se joue aussi dans l'est de l'Afrique, cette fois au Soudan. La situation y est désespérée en raison d'une guerre qui a éclaté il y a un an, une guerre oubliée. Mais Nicolas, les convois d'aide humanitaire pourront bientôt reprendre depuis le Tchad voisin. Un accord a été trouvé après plusieurs jours de discussion.
Oui, le pouvoir réfugié dans la ville de Port-Soudan bloquait l'aide car il accuse son voisin tchadien de laisser passer des armes pour les forces de soutien rapide, les milices du général Emeti qui affrontent depuis un an l'armée nationale. Ces accusations ont été fermement démenties par le Tchad. Reste que les convois à destination de la province du Darfour, où les combats et les violences font rage, étaient bloqués depuis 2 semaines. Des camions apportant des rations sèches, du sorgho, des céréales et des haricots pourraient donc reprendre la route dès la semaine prochaine. Chaque minute compte. En saison des pluies, le passage des véhicules devient presque impossible.
Il y a donc urgence, d'autant que la situation au Soudan est absolument catastrophique, on le disait.
D'après le Programme alimentaire mondial, le PAM, le conflit qui ravage le Soudan depuis près de 11 mois risque en effet d'engendrer la plus grande crise de la faim au monde. Selon le PAM, aujourd'hui, moins de 5% des Soudanais peuvent s'offrir un repas complet par jour et 18 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë. Les combats ont fait depuis un an des milliers de morts et 8 millions de déplacés.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En France, l'interruption volontaire de grossesse est désormais inscrite dans la Constitution. C'est une première mondiale. Les députés et les sénateurs ont largement voté oui en ce début de semaine. Alors qu'en pensent les plannings familiaux ? Clémentine Sabrier s'est rendue au planning familial de Lille, dans le Nord. Elle y a notamment rencontré Pasquine. Cette conseillère estime que l'inscription de l'IVG dans la Constitution n'est qu'une étape.
Pasquine, conseillère au planning familial de Lille depuis 2010, estime que ça peut aider les femmes à déculpabiliser.
Ça participe au fait de remettre l'IVG au centre de l'attention comme un droit essentiel à défendre. Donc forcément, ça va jouer sur le sentiment de légitimité des gens qui y ont recours.
Mais pour la bénévole, au-delà du symbole, il faut des actes. Dans le Nord, il est parfois difficile d'accéder à l'IVG.
Globalement, sur l'île, le seul moment où on a parfois des petits problèmes, c'est au mois d'août, parce que avec les congés, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur la côte ou dès qu'on est du côté de l'Audomarois, ça peut être beaucoup plus compliqué.
Et d'après l'administratrice du planning du Nord, Véronique Seyé, ces difficultés touchent surtout les femmes les plus pauvres.
Ce sont toujours les personnes les plus éloignées des droits qui en payent le prix le plus fort. C'est toujours les personnes les plus précaires, les moins mobiles, qui aujourd'hui sont les plus victimes de cette difficulté d'accès à l'avortement.
Pour éviter des situations d'angoisse et de souffrance, la militante demande plus de moyens pour les IVG.
C'est vraiment important que le parcours de l'IVG ne soit plus le parcours de la combattante.
Véronique Seyé appelle donc le gouvernement à un nouveau plan pour améliorer l'accès à l'avortement.
Clémentine Sabrier pour France Bleu Nord. En 2015, la ministre de la Santé de l'époque avait lancé un grand plan pour l'avortement, avec notamment une campagne d'information et le remboursement de tous les actes médicaux liés à l'IVG. En Belgique, on retiendra cette semaine cette interview du comédien et réalisateur Bouly Lanners. Il sera le président de la 13e cérémonie des Magritte ce samedi soir. Une cérémonie pour récompenser les productions du cinéma belge de l'année. Jacques, Bouly Lanners s'est dit victime de harcèlement quand il était plus jeune.
C'est une interview donnée à la RTBF, une déclaration alors que se libèrent aussi la parole d'autres hommes, eux aussi victimes de harcèlement ou de violence, notamment dans le monde du cinéma. Acteur et réalisateur, Bouly Lanners confie avoir été victime de harcèlement il y a quelques années.
À titre personnel, et j'en ai parlé à l'époque, et tout le monde s'est moqué de moi, j'ai été harcelé par une réalisatrice, plus âgée que moi. Et chaque fois que j'ai commencé à en parler, les gens ont ri. Parce que j'étais un mec, parce que j'étais gros, et qu'on disait, bon, t'as bien de la chance. Donc la parole, elle n'était pas écoutée non plus. Elle avait le pouvoir d'eux. Et c'est celui qui a le pouvoir d'eux qui l'exerce sur l'autre. C'était extrêmement difficile pour moi d'en parler. Et même aujourd'hui, quand j'en parle aujourd'hui, j'en ai parlé très peu. Ma parole n'est pas acceptée parce que je suis un homme et que je fais partie du camp de ceux qui sont les harceleurs.
Sur l'identité de la réalisatrice, Bouly Lanners n'en dira pas davantage, mais le sujet alimentera certainement les conversations lors de la cérémonie des Magritte qui a lieu ce samedi soir et dont il est le président. On y récompensera les meilleures productions belges de l'année, un cinéma qui s'organise aussi pour lutter contre le harcèlement, comme par exemple cette fonction de coordinatrice d'intimité pour encadrer les scènes sexuelles sur les plateaux, une fonction qu'exerce Paloma.
C'est vraiment créer un espace de travail dans lequel on peut réfléchir à nos limites, on peut les exprimer, mais aussi on est dans une collaboration beaucoup plus horizontale que juste d'entendre un réalisateur ou une réalisatrice qui dit faites l'amour un peu comme chez vous.
Elles sont deux en Belgique à exercer cette fonction, un nouveau métier qui peu à peu s'installe donc sur les plateaux de tournage.
Jacques Kremers pour la RTBF. Et on va se quitter cette semaine en Suisse avec vous, Esther, et une votation dimanche dernier qui fera date dans les livres d'histoire.
Le dimanche 3 mars 2024, 58% des Suisses ont dit oui à une 13e rente assurance vieillesse survivant. Une 13e rente qui tombera comme un 13e salaire pour les retraités. Un vote historique à mains égards. C'est la première fois que les syndicats parviennent à faire passer une initiative issue de leur rang. La première fois aussi qu'ils parviennent à développer une assurance sociale. Dès les premières tendances à la sortie des urnes, la droite opposée au projet reconnaît sa défaite avec cet aveu du conseiller national libéral radical Olivier Feller.
Nous avons probablement péché par une assurance excessive. Nous avons à droite sous-estimé l'adversaire.
Dans un pays où les citoyens ont plutôt tendance à rejeter tout projet dont le financement est incertain et où les dernières élections ont montré un net virage à droite, l'ampleur du oui a surpris tout le monde.
Alors comment est-ce qu'on explique ce résultat ?
Ce succès historique est incarné par un homme, le premier syndicaliste du pays, Pierre-Yves Maillard. Omniprésent dans la campagne, le président de l'Union syndicale suisse ne cachait pas sa joie au soir de la victoire.
C'est vraiment une victoire collective, mais c'est pour moi surtout une victoire pour le peuple suisse et pour la démocratie suisse. Ça a été un débat intense. Maintenant, il y a une décision qui a été prise, qui est claire. Il y a aussi un oui dans toutes les régions linguistiques. Ça, c'est aussi très, très fort pour l'AVS parce que c'est vraiment une institution qui fait le ciment de notre pays.
Dimanche dernier, les Suisses ont donc montré leur attachement à cette assurance vieillesse mise en place en 1947 par scrutin populaire. Ils ont aussi donné un coup de pouce au pouvoir d'achat du troisième âge, malmené par l'inflation. Mais la question du financement de la 13e rente reste ouverte. 4 milliards à trouver pour le 1er janvier 2026. Alors faut-il passer par une augmentation des cotisations sociales ou de la TVA, le débat s'annonce presque aussi vif que la campagne.
Esther Coco pour la Radio-Télévision Suisse. Et pour se quitter cette semaine, merci pour votre fidélité à l'accent des autres. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.